France Culture. France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Être et savoir sur France Culture s'intéresse au sens des contes pour enfants avec Bruno Bettelheim. Et pas seulement, c'est la suite de notre série « Les grandes idées qui ont changé l'éducation, notre éducation », des notions qui nourrissent la réflexion, mais aussi les manières de faire des mères et pères d'aujourd'hui et peut-être des professionnels de l'enfance, des éducateurs, des grands-parents. Il faut aussi parler des grands-parents. On a beaucoup évoqué les relations parents-enfants avec nos invités des trois premiers épisodes et on continue d'explorer l'influence donc des médecins, psychiatres, psychanalystes. On avance en âge pour aborder l'importance des contes. En effet, le merveilleux est un matériau privilégié pour l'enfant. C'est ce qu'a expliqué donc Bruno Bettelheim, qui était psychanalyste, dans un ouvrage au puissant retentissement, Psychanalyse des contes de fées, publié en 1976. Tendez l'oreille.
Cendrillon s'enfuit du bal trois fois. Alors l'enfant se demande pourquoi s'enfuit-elle. Le prince était amoureux d'elle la première fois. Alors l'enfant comprit, pas dans son conscience, mais dans son inconscience, que Cendrillon ne veut pas être choisi par ses habits beaux, ou les bijoux, mais ça n'ira pas. Ça n'est pas une vie heureuse si le prince croit qu'elle est toujours beau. On n'est pas toujours beau dans toute la journée, toute la vie, mais le prince vient, il faut le voir et le voir comme elle est vraiment. Et il faut que le prince choisisse la personne et pas les habits.
Comme on est vraiment, et ça c'est très important, je crois que dans cet extrait d'une interview de Bruno Bettelheim sur Antenne 2 en 1976, les mots les plus importants, c'est comprendre de manière inconsciente, consciente et inconsciente. Et on va évoquer cela avec vous, Bernadette Bricout. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de littérature orale, professeur émérite de l'Université Paris-Cité, conceptrice des Amphis 21 à Sciences Po depuis leur création. Vous avez publié notamment « La clé des contes » au Seuil et préfacé en 2020 « Les contes de Perrault » illustrés par l'art brut, édition Diane de Cellier. Ce sont donc de très très beaux livres. Bettelheim est né en 1903 à Vienne. Il est mort en 1990 aux États-Unis. Donc pédagogue, psychothérapeute et psychanalyste. Je ne sais pas si d'ailleurs il est précurseur ou non de cette idée que les contes et le merveilleux nous éclairent un peu sur notre fonctionnement et nos liens et notre inconscient, ou si c'est une idée, finalement, en 1976, qui était déjà bien présente dans le champ intellectuel.
Alors, il y a peut-être une chose à dire quand même en amont de notre échange sur Bettelheim, parce que ça n'est pas dit très clairement dans le livre de Bruno Bettelheim lui-même, c'est que, traditionnellement, contrairement à une idée reçue, les contes merveilleux n'étaient pas destinés aux enfants.
C'est vrai.
Il n'était pas destiné aux enfants. Le conteur s'adressait au cercle des adultes, j'allais dire toutes générations confondues. Et c'était le cas dans les veillées, c'était le cas dans les travaux accomplis en commun. Et on doit se demander comment et pourquoi, au fond, un stéréotype très ancien veut que le conte, et particulièrement le conte merveilleux, soit associé à l'enfant. Alors, il y a d'abord une réponse négative. C'est qu'on a associé très tôt et dans le même mépris le peuple, ignorant de par sa condition, et l'enfant, ignorant à cause de son âge. Mmh. On avait le sentiment qu'au fond, le conte était un art de l'enfance, enfance de l'homme, enfance de l'humanité, mais les présentations qui en étaient faites, si on regarde les dictionnaires, très souvent, on nous dit que ces contes de fées auxquels Bettelheim va consacrer une étude sont des contes de vieilles, des contes de servantes, des contes de nourrices, des contes à dormir debout, des fables ridicules. C'est-à-dire des histoires tout juste bonnes à amuser les enfants. Et à la vérité, les adultes ont trouvé, bien entendu, dans les contes merveilleux de quoi nourrir leurs rêves et peut-être des repères pour leur propre vie. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment et pourquoi les enfants se sont peut-être approprier peu à peu des histoires qui ne leur étaient pas destinées. En tout cas, l'idée que le conte de fées soit un matériau psychopédagogique privilégié pour l'enfance, pour répondre à votre question, alors ça surgit avec... on va prendre une autrice femme qui est Sarah Cohn-Briant, qui était elle-même, elle a écrit des récits pour enfants et elle a publié très tôt, en 1905, un ouvrage précurseur qui s'appelait « Comment raconter des histoires à nos enfants ?» Et sa préoccupation à elle, c'était de montrer aux parents, aux mères surtout, mais aux pères aussi, on a vu qu'ils avaient un rôle à jouer, à quel point le conte devait être incarné, raconté par un adulte qui allait porter l'histoire et être apparaître à l'enfant comme la maison du conte et sa source. Elle ne disait, il ne faut pas se contenter de lire des contes avec l'enfant, il faut les leur conter. Et elle donnait donc des conseils aux parents pour prendre le risque de porter l'histoire.
Pour bien conter, ça veut dire que cette incarnation du récit, c'est ce que vous venez de m'expliquer d'ailleurs, hein, Bernadette Bricout, elle est hyper importante. À l'heure où il y a tant de podcasts, on est dans un podcast là, ensemble, il faut aussi redire que ce récit physique,
Que rien ne remplace la présence. Hein, on parlait de l'objet transitionnel tout à l'heure. Rien ne remplace la présence, la voix de la mère ou du père qui va porter le récit, les réactions de l'enfant qui très souvent va exercer un contrôle sur le récit en train de se faire. Parce que il peut réclamer plusieurs fois la même histoire, mais il sera peut-être amené à dire aussi, ça n'est pas ainsi que tu me l'as raconté hier. Hier, à tel moment, le lapin est intervenu et aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, il est un créateur à part entière et c'est une création qui se fait en commun dans la présence, dans la coprésence, bien sûr.
Alors, ce qui me semble très important aussi, c'est l'élaboration psychique, donc consciente et inconsciente. Qu'est-ce qui est censé se passer qu'on n'aurait pas dit clairement, formulé? Parce que bon, là, l'exemple que prend Bettelheim avec Cendrillon, c'est assez facile. Finalement, on peut le conscientiser. Elle est habillée en souillon, elle est bien quand même. La chaussure lui va, tout va bien. Cussandro est une princesse et sa beauté maintenant apparaît à tous. D'accord. Mais ça, c'est ce que ça frappe l'inconscient. Qu'est-ce qui frappe l'inconscient dans les contes? On peut prendre d'autres exemples. Le petit chaperon rouge est souvent cité.
Oui, pour Bruno Bettelheim, le conte a le mérite, c'est vraiment l'idée fondamentale de son livre, d'exprimer des réalités que l'enfant pressent, qu'il habite quelquefois, mais des réalités dont il ne peut pas ou dont il ne veut pas parler. Et au fond, on va passer par le détour du conte pour évoquer à mots couverts le tabou de l'inceste. C'est le cas de Podane, que son père veut épouser. La crainte de la castration, le loup de Prokofiev qui a peur de perdre sa queue. Et Dieu sait que la crainte de la castration est présente dans un grand nombre de contes. La scatologie. Dans les versions anciennes des Trois Petits Cochons, on a oublié que dans les versions populaires, le loup ne détruit pas les maisons par son souffle, mais par la force de son pet destructeur. Donc, il y a là, si vous le voulez, une sexualité qui est présente dans les contes, mais sous une forme symbolique qui sollicite l'inconscient de l'enfant. Et c'est par ce détour que le conte peut parler en quelque sorte. Le conte est une parole en clair-obscur. Les enfants savent, comme d'ailleurs le conteur, que le conte évoque des réalités, bien sûr que l'enfant pressent, mais dont il ne voudra pas, dont il ne pourra pas parler.
Et ce que dit Bettelheim, c'est que c'est une bonne manière d'aborder ces réalités, en tout cas une manière intéressante et riche, mais peut-être me direz-vous, Bernadette Bricout, que c'est pas le seul, oui. Pour aborder la sexualité. Ça peut être aussi la jalousie entre frères et sœurs, parce que finalement on parlait de Cendrillon, il y a aussi de
ça. Bien entendu. L'idée de Bettelheim, l'idée fondamentale, c'est celle-là. Alors il est vrai que la force de son livre, c'est que pour les grands contes du répertoire, il va nous proposer donner une grille de lecture. Mmh. Quand je dis une grille de lecture, c'est-à-dire une lecture qui est une lecture ordonnée, qui va nous permettre de comprendre dans quelle mesure l'enfant va trouver dans le conte un langage crypté qui s'adresse à son inconscient et qui peut l'aider peut-être à résoudre ses conflits profonds. Mais il faut tout de même rappeler aux parents qui nous écoutent que ça n'est pas la seule richesse ou ça n'est pas le seul apport du conte merveilleux. Je voudrais citer quelqu'un qui précède de quelques années Bruno Bettelheim, c'est Eric Berne. Eric Berne, c'est le fondateur de l'analyse transactionnelle et pour lui, alors il a écrit un énorme livre paru en français, traduit chez Tchou, qui s'intitule « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Et à cette simple question, il répond très longuement et lui, l'une des idées fortes à propos du conte merveilleux, c'est que le conte propose à l'enfant un scénario, et au lecteur de conte, un scénario de gagneur. Le héros du conte est toujours un héros handicapé à l'origine. Il est chétif, il est petit, comme le petit Pousset. Il est laid, comme Riquet à la Houppe. Riquet à la Houppe, quand il naît, est dans certaines versions tellement horrible que sa mère elle-même ne veut pas le regarder. C'est un songe creux. Il est bête. S'il y a trois frères, il est le plus bête des trois frères. Et il passe sa journée à cracher dans un puits pour y faire des ronds. Or, c'est ce héros handicapé à l'origine qui va entamer une quête, qui va accomplir des épreuves, qui va triompher de l'agresseur et qui va faire sa place au soleil. Et l'enfant, le jeune enfant, y trouve une certitude réconfortante, c'est que lui aussi parviendra à trouver sa place, à apprivoiser ses peurs, à vaincre les agresseurs potentiels, bref, à exister. Et dans toutes les épreuves qu'il aura à affronter, il va trouver dans ses récits une certitude réconfortante.
Alors c'est un peu genré, hein, parce que les héroïnes de contes, elles sont petites, parfois faibles, pauvres, mal habillées, mais rarement moches. Enfin, vous pouvez me détromper, hein, Bernadette Bricout. Comment ces contes habitent le monde contemporain ? Et pourquoi est-ce qu'il faut redire aux parents d'aujourd'hui que c'est important d'en lire ? Outre le fait que bon, c'est intense, qu'on a un bon échange avec son enfant.
Mais alors, il y a une première raison fondamentale que tout le monde comprendra. C'est que ces histoires nous viennent, j'allais dire, de la nuit des temps. Elles ont des siècles ou des millénaires d'existence. Elles ont été transmises de bouche à oreille, de la mère à l'enfant, du conteur au public, et elles ont été en quelque sorte débarrassées de tout ce qui n'était pas absolument fondamental. Elles sont polies, on a pu parler à propos d'elles, de perles de parole. Elles sont polies comme les galets de la mer, si vous voulez. Mmh. Et donc ce sont des récits qui ont traversé les siècles et dont on peut penser qu'ils ont nourri l'humanité et ils vont continuer à la nourrir, ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'ils soient au contraire, qu'ils soient adaptés à l'esprit et à la sensibilité du temps. Vous voyez ?
Mais de ce fait, est-ce qu'on doit s'intéresser à la version qu'on raconte, par exemple, je sais pas, Perrault, Grimm, Disney, où finalement toutes les versions se valent parce qu'elles contiennent en elles cette force millénaire, originelle d'une histoire qui a traversé les âges.
Alors, d'abord, moi, je serais tentée de dire, puisqu'on va parler pour les parents, n'est-ce pas, qui comptent des histoires à leurs enfants, pour les éducateurs, qu'il faut d'abord, si possible, être en phase et en harmonie avec la version qu'on va raconter. Ça, c'est absolument fondamental. Si elle n'est pas nourricière pour vous, si elle n'est pas chargée d'une énergie tonique et d'une lumière pour vous, alors ça n'est pas la bonne. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est absolument passionnant, et alors là, je pense plus, bien entendu, à ceux qui travaillent avec des enfants dans les écoles, puisqu'on est en train de parler de l'âge du conte, mais l'âge du conte, je dirais que de la petite enfance à la dixième année, l'enfant reste animiste, on va dire, jusqu'à l'âge de la puberté. On a là un âge extraordinaire pour la réception des récits et du pouvoir de la féerie opposé à la logique rationnelle du discours scientifique. Et donc, dans cet âge du conte, La version, alors, il y a un travail magnifique à faire, c'est celui de faire dialoguer des versions issues de cultures différentes. Et ça peut se faire à l'intérieur d'une communauté à l'école, parce qu'on voit que les versions d'un même conte s'appellent et se répondent et se complètent. Alors, il est vrai que, par exemple, Bruno Bettelheim fait dans son livre une large part aux versions de Perrault et aux versions de Grimm. Il n'y a aucun doute, lui préfère les versions de Grimm. À l'égard de Perrault, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Perrault parce qu'il est souvent assez rude avec Perrault et assez péremptoire. Mais au fond, la bonne version, c'est celle qui vous aura nourri et qui vous aura enchanté et qui permettra de transmettre la merveille. Alors qu'aujourd'hui, les contes qui sont irrigués par une trame narrative, cette trame narrative, c'est celle des rituels, des coutumes, des croyances, des gestes et des mots de tous ceux qui nous ont précédés, et c'est vraiment une trame invisible dont le quotidien de nos vies est invisiblement tissé, et bien que l'on ait envie d'adapter la narration à des réalités contemporaines, bien sûr, c'est la liberté du conteur. Il a la même liberté que celle, j'allais dire, du musicien face à une partition. Mais il y a quand même une trame narrative qui elle, ne sera pas démolie parce qu'elle a subi l'épreuve du temps. Et vous pourrez peut-être, ça va peut-être être la question suivante.
Alors, on va voir.
Est-ce qu'on a beaucoup de contes? Est-ce qu'on a beaucoup de contes dont on peut dire, par exemple, qu'ils sont déjà des trésors de l'humanité et qu'ils soient, par exemple, des contes d'écrivains, des contes d'auteurs? Ben, j'en connais, mais il y en a un dont je suis sûre que c'est un trésor de l'humanité. Henri Gougaud disait « La plus grande gloire des poètes, c'est de devenir anonyme. » Et je me demande si ce conte-là ne va pas devenir un trésor de l'humanité au point qu'on oubliera peut-être le nom de l'auteur, encore que non, il l'a illustré. C'est le Petit Prince. Le Petit Prince est traduit dans toutes les langues. Il est aujourd'hui, il doit y avoir 27 traductions coréennes, autant de traductions japonaises. C'est un trésor de l'humanité et il est reçu comme un conte, j'allais dire, en voie de folklorisation, folklorisé déjà. Nils Holgersson, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, peut-être. Mais vous voyez que, comment dire, les contes d'auteurs ne peuvent pas se prévaloir de cette durée de vie.
Mais alors, c'est intéressant parce que le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est quand même déjà un livre un peu méta. C'est un texte qui interroge la fonction de la symbolique et de la représentation, justement. Donc c'est vraiment un conte du moderne, du XXe siècle. C'est-à-dire que là, c'est pas des questions qui sont un peu sous-tendues, en arrière-plan. Est-ce que le loup est vraiment un loup ou un homme? Là, on dit, ben voilà, on peut. Il y a mille manières de dessiner un mouton, par exemple. Les planètes sont petites ou grandes. Grande. Enfin, je sais pas, la symbolique, elle est très montrée pour le coup.
Oui, elle est à l'œuvre dans ce récit, mais vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez utilisé le mot question. Je crois que le conte pose des questions et que les lectures qui en sont faites, la lecture de Bettelheim, bien entendu, mais aussi des lectures contemporaines, comme celle de Lucille Nova à propos de Grandin, par exemple.
J'allais vous en parler.
On va peut-être en parler. Elles apportent des réponses. C'est-à-dire qu'on va traiter le conte, je vais le dire de manière un peu rapide, mais on n'a pas beaucoup de temps, à la manière d'un roman familial ou d'un roman policier familial qu'il s'agit de décrypter. C'est passionnant pour le lecteur, mais ça n'enlève rien au mystère du conte.
Cendrillon pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Sure.
Quand le groupe Téléphone proposait une relecture de Cendrillon qui se finit pas très bien, l'histoire de Cendrillon dans cette chanson, puisque elle devient junkie. Et pour parler de nouvelles lectures, évidemment, je voulais évoquer l'ouvrage de Lucille Nova, donc publié à La Découverte, ouvrage intitulé « Deux grandes dents » où Lucille Nova s'intéresse à ce récit, le petit chaperon rouge, ce conte, où on demande à un enfant de se déshabiller pour rentrer dans le lit de son aïeul, sa grand-mère. Elle dit, mais ça, c'est l'inceste, en fait. Et là où on voyait, peut-être plus évidemment, le loup comme un agresseur et un pédophile, on peut se demander si, finalement, le loup, c'est pas rien, et que c'est vraiment une grand-mère qui, ou un grand-père qui demanderait à une petite fille de venir déshabiller dans son lit. Et tout à coup, c'est une autre part du conte qui s'éclaire. Alors j'ai deux questions, Bernadette Bricout. Est-ce que finalement, ça, on l'a toujours raconté un peu sans le savoir, et que moi qui ai raconté tant de fois ce conte, j'ai quand même transmis un peu cette idée inconsciemment, sans l'avoir exploré. Ou est-ce que finalement, ces nouvelles lectures vont nourrir d'autres intentions quand on va raconter les histoires ?
D'abord, il faut quand même rappeler que le petit chaperon rouge, puisqu'il s'agit du petit chaperon rouge de Perrault, là, celui qui se termine par la mort de la petite fille, qui rentre dans le lit et qui ne ressuscite pas, elle ne sortira pas du ventre du loup. On n'est pas dans les versions orales. Ce conte appartient à la seule tradition des contes inventés à l'usage exclusif des enfants, c'est-à-dire les contes qui se terminent mal. C'était des contes d'avertissement, c'était des contes de mise en garde. Et ces contes de mise en garde, ils ont un schéma très très simple. Un adulte détenteur de la sagesse et de la maturité et de l'expérience formule une interdiction. Bien entendu, le héros enfantin la transgresse et dans un troisième temps, il est puni. Dans le cas du petit chaperon rouge, c'est très complexe dans le conte de Perrault parce que la mère ne met pas en garde sa petite fille. Elle l'envoie seule dans la forêt, vêtue de son chaperon rouge qui la désigne comme infiniment désirable, même auprès du loup le plus distrait, et porter une galette et un petit pot de beurre à une grand-mère qui ne les a pas demandés. Ce qui amenait d'ailleurs Éric Berne, toujours lui, j'aime bien citer Éric Berne parce qu'il a de l'impertinence, à parler d'un complot des femmes. Et il disait de ce complot des femmes, en fait, le loup serait la victime parce que le conte d'avertissement serait un conte d'avertissement à l'usage des loups pédophiles, on dira aujourd'hui, grand méchant loup. Méfiez-vous des petits chaperons rouges qui se promènent seuls dans les bois, parce que le chasseur n'est pas loin, surtout dans la version des Grimm. Alors, dans le cas que vous évoquez, c'est-à-dire ce qui se cache dans le lit et ce que nous cache le lit, il y a d'une part l'avertissement de Perrault, qui est un avertissement, une moralité en vers, à caractère sexuel évidemment, sur les dangers de la sexualité pour les jeunes filles. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange, il en est temps que le loup mange. Alors, un avertissement à l'égard des jeunes filles. Dans les livres pour enfants, peu à peu, la moralité savante disparaît. Et comme elle disparaît, le contenu sexuel de l'avertissement n'est plus perçu. Et dans les dessins d'enfants, au XVIIIe puis au XIXe siècle, l'héroïne rajeunit. Au début du XXe siècle, elle a 3-4 ans. Et le conte est perçu alors comme un conte d'avertissement sur les dangers de la désobéissance. On voit la mère qui dit « ne t'attarde pas en chemin ». Bon, là, on est du côté des Grimm, avec quelque chose de psychopédagogique qui satisfait pleinement Bettelheim, parce que Bettelheim aime bien que les mères mettent en garde leurs enfants sur les dangers possibles. Et puis alors ensuite, on va avoir au fond deux visions du danger de la sexualité auquel nous revenons aujourd'hui. D'une part, le loup pédophile qui pourrait attendre l'enfant à la sortie de l'école. Et d'autre part, la grand-mère incestueuse, folle, sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore, qui attend l'enfant dans son lit, grand-mère ou grand-père. Le danger n'est pas à l'extérieur de la maison, il est au-dedans aussi. Je dirais que c'est un changement d'éclairage qui ne récuse en rien les lectures antérieures, parce que le conte déborde toujours toutes les analyses qu'on peut en faire. C'est là qu'est sa richesse. Vous voyez, Madame Neva, au fond, je parle du roman policier familial, ben, on est dans quelque chose qui est dans le sillage de la Familia Grande. Le danger...
De Camille Kouchner, ben, voilà, paru en 2023,
le danger est à l'intérieur. Le danger est à l'intérieur de la maison. Alors, c'était présent dans les versions chinoises, hein, où très souvent le conte s'appelle la grand-mère loup ou la grand-mère tigre. Et même, il y a des versions chinoises où la grand-mère devient un tigre pour dévorer ses propres enfants ou sa petite fille. Mais là, il y a très souvent, il y en a plusieurs. Bon, c'est un changement d'éclairage, mais ça n'épuise en rien le sens du conte. Et je dirais heureusement. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'autre dans le conte. Et que, pour le coup, je reviens à Bettelheim, qu'il dit magnifiquement à la suite de Djuna Barnes. C'est que les enfants eux-mêmes aiment quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils aiment que la petite fille, que le petit chaperon rouge et le loup soient couchés ensemble dans un lit, que l'on ait ce jeu verbal extraordinaire avec les questions de l'enfant. « Oh, grand-mère, comme vous avez de grands bras, de grandes jambes !» Dans les versions orales, c'est souvent plus... De longs poils, c'est de vieillesse, dit le loup. Comme vous avez une grande queue, c'est pour mieux chasser les mouches, mon enfant, dit le loup, qui a toujours réponse à tout. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Et quand on raconte le conte, on sait bien qu'il y a toujours un moment où l'adulte, père ou mère, va faire semblant de se jeter sur l'enfant pour le manger de baisers. C'est pour te manger. Et là, l'enfant rit aux éclats. Et cette part du jeu, elle est très importante parce qu'elle participe précisément du fait que le conte crée un lien vivant entre l'adulte qui raconte et l'enfant qui l'accompagne. Et cette dimension du plaisir-là, vous voyez, elle ne peut pas se réduire à la lecture, quelle qu'elle soit, qui sera faite du conte avec une grille d'analyse.
Mais Bernadette Bricout, on parle de contes, voilà, Cendrillon, là, avec la chanson qui propose aussi une relecture, celle de Téléphone, ou Le Petit Chaperon Rouge, qui sont toujours beaucoup racontés, lus. Certains le sont peut-être moins. J'ai pensé à Barbe Bleue, qui est vraiment une histoire terrifiante de féminicide, que personnellement, j'aurais peut-être du mal à raconter. Et même le petit poussé avec toute la partie où l'ogre mange ses propres filles. Parfois, il y a des violences qui...
Hé, mon papa, tu me manges, disent les petites filles dans une version poitevine.
Bizarrement, voilà, et aux oreilles
répond,
d'aujourd'hui.
Je ne suis pas ton père. Oui, alors... vous avez raison, enfin vous dites, je ne raconterai pas l'histoire de Barbe Bleue ou celle du Petit Poucet. Parce
moins
que,
volontiers.
Voilà, moins volontiers parce qu'il y a dans ces histoires quelque chose qui me désespère. Ça me donne l'occasion d'évoquer quelqu'un qui m'est cher, qui est François Ruvidal. François Ruvidal a été un éditeur de contes au sens anglais du terme puisqu'il mettait en relation le conteur et l'illustrateur. Il a beaucoup travaillé avec Arlene Quist. Et François Ruvidal, qui nous écoute peut-être, était désespéré par l'histoire du Petit Poucet, qu'il ne voulait pas raconter à son fils. Donc, il l'a évité jusqu'au moment où son fils est allé à l'école et lui a dit « Mais j'ai entendu une histoire formidable, c'est le Petit Poucet. » François Ruvidal a dit « Oui, il est vrai, je vais te la raconter. C'était des parents qui avaient perdu leurs enfants. Non, dit le fils. Il ne les avait pas perdus par mégarde. Les enfants ne s'étaient pas égarés. Il les avait perdus exprès. Et c'est cette histoire-là que je veux que tu me racontes. »
Merci Bernadette Bricout et merci à Avril Ventura, Perret Legras et Ruben Carmazine.